Chapitre 9. Donna Hippolyte Albonico avait dans toute sa personne un grand air de noblesse et ressemblait un peu à Marie-Madeleine d'Autriche, femme de Côme II de Médicis, dont le portrait par Juste Sutermans est à Florence chez les Corsini. Elle aimait les vêtements somptueux, les brocarts, les velours, les dentelles. Les larges fraises médicéennes semblait être la mode la plus propre à faire valoir la beauté de sa tête royale. Un jour de course, dans la tribune, André Sperelli voulait obtenir de Donna Hippolyte qu'elle vînt le lendemain au palais Zuccari prendre le mystérieux ivoire marqué à son nom. Elle s'en défendait, partagée entre la prudence et la curiosité. À chaque phrase un peu hardie du jeune homme, elle fronçait les sourcils. Mais en même temps, un sourire involontaire lui forçait la bouche. Et le chapeau orné de plumes blanches, le fond de l'ombrelle orné de dentelles blanches, faisait à sa tête un cadre d'une harmonie singulière. « Tibi Hippolyta, donc vous viendrez, je vous attendrai tout l'après-midi, depuis 2 heures jusqu'au soir. C'est entendu ?»«
Mais vous êtes fou !»«
Qu'avez-vous à craindre ? Je jure à votre majesté de ne pas seulement lui dérober un gant. Selon sa royale coutume, elle demeurera assise comme sur un trône. Et même en prenant une tasse de thé, elle pourra, s'il lui plaît, ne pas déposer le sceptre invisible qu'elle porte toujours en son impérieuse main. À ces conditions, daigne-t-elle m'octroyer cette grâce ?
Non.
Mais elle souriait, car elle se complaisait à entendre exalter cet air majestueux qui était sa gloire. Sperelli continuait de la tenter, toujours sur un ton de badinage de prière, en joignant à la séduction de la parole l'obsession d'un regard obstiné, subtil, pénétrant, de ce regard indéfinissable qui semble déshabiller les femmes, les voir nues à travers les vêtements, toucher leur peau vive.
« Je ne veux pas que vous me regardiez ainsi !» fit Donna Hippolyte, presque offensée, avec une rougeur légère.
Il restait peu de monde dans la tribune. Dames et messieurs se promenaient sur l'herbe, le long de la barrière, où entourait le cheval vainqueur, où pariaient au guichet des bookmakers hurlants, sous le soleil incertain qui apparaissait et disparaissait entre les clairs archipels des nuages.
« Descendons, » dit-elle, sans remarquer les yeux vigilants de Jean Routolo, qui se tenait appuyé à la rampe de l'escalier.
Lorsque, pour descendre, ils passèrent devant lui, André lui dit « Au revoir, Routolo, à bientôt. Nous allons courir, n'est-ce pas ?» Routolo s'inclina profondément devant Donna Hippolyte et une flamme soudaine lui colora le visage. Il avait cru sentir dans le salut du comte une nuance de dérision. Il continuait de suivre des yeux le couple à travers l'enceinte. Il souffrait visiblement.
Routolo, prenez garde à vous, lui dit avec un sourire méchant la comtesse de Lucoli, qui descendait l'escalier de fer au bras de Philippe Del Monte.
Il reçut le coup en plein cœur. Donna Hippolyte et le comte d'Ughent, après avoir poussé jusque sous la plateforme des juges, revenaient vers la tribune. Hippolyte tenait le manche de son ombrelle sur l'épaule en le faisant virer entre ses doigts, et la coupole blanche lui tournait derrière la tête comme une auréole, le flot des dentelles s'agitait et se soulevait incessamment. Au centre de ce cercle mobile, elle riait par instant de ce que lui disait le jeune homme, et une rougeur légère colorait encore la noble pâleur de son visage. De temps à autre, ils s'arrêtaient tous les deux. Jean Routolo, sous prétexte d'examiner les chevaux qui entraient dans la piste, dirigea vers eux sa lorgnette. Ses mains tremblaient. Chaque sourire, chaque geste, chaque attitude d'Hippolyte lui donnait une atroce douleur. Lorsqu'il abaissa la lorgnette, il était blême. Dans les yeux que son aimé fixait maintenant sur André, il avait surpris ces regards qu'il connaissait bien, ceux qui, jadis, l'avaient illuminé d'espérance. Il lui sembla que tout s'effondrait autour de lui. Un long amour, tranché par ce regard, finissait irréparablement. Le soleil n'était plus le soleil, la vie n'était plus la vie. On allait donner le signal de la troisième course et la tribune se repeuplait avec rapidité. Les dames montaient debout sur les banquettes. Un murmure courait le long des gradins, semblable à une brise sur un jardin en pente. La cloche sonna.
Les chevaux partirent comme une volée de flèches.
« Je courrai en votre honneur, Donna Hippolyte, » lui dit André lorsqu'il prit congé d'elle pour se préparer à la course suivante, celle des gentlemen. « Tibi, Hippolyta, Saint-Père. »
Elle lui serra la main fortement en manière de bon augure, sans songer que Routol devait courir aussi. Un peu plus tard, lorsqu'elle aperçut son amant, qui, tout pâle, descendait seul, la cruauté ingénue de l'indifférence régnait dans ses beaux yeux sombres. Sous l'invasion du nouvel amour, le vieil amour lui tombait de l'âme comme une dépouille inerte. Elle n'appartenait plus à cet homme, elle ne lui était plus liée par aucun lien, puisqu'elle avait cessé de l'aimer.
« Il me l'a prise !» pensait Routol en s'acheminant vers la tribune du Jockey Club, dans l'herbe qui lui semblait s'enfoncer sous ses pieds comme du sable. Devant lui, à peu de distance, l'autre marchait d'un pas ferme et dégagé. Dans la longue redingote grise, sa personne haute et souple avait cette élégance spéciale et inimitable que seule peut donner la race. Il fumait. Routol, venant par derrière, sentait à chaque bouffée l'odeur de la cigarette. Et c'était pour lui une répugnance insupportable, un dégoût qui lui faisait lever le cœur, comme si cette odeur eût été un poison. Le duc de Beffy et Paul Caligaro étaient à la porte du pesage, déjà en tenue de course. Le duc, pour éprouver l'élasticité de sa culotte de peau ou la force de ses jarrets, se penchait avec un mouvement de gymnaste sur ses jambes écartées. Le petit Caligaro maudissait la pluie nocturne qui avait alourdi le terrain. « Avec Maleko, dit-il à Sperelli, tu as beaucoup de chance. » Jean Routolo entendit ce présage et son cœur se serra. Il fondait sur la victoire une vague espérance. Il se représentait l'avantage que lui donnerait sur son ennemi une course gagnée et un duel heureux. Tandis qu'il changeait de vêtements, chacun de ses gestes trahissait la préoccupation. Voici un homme qui, avant de monter à cheval, voit le tombeau ouvert, dit le duc de Beffy en lui posant la main sur l'épaule avec un geste comique. Ecce homo novus. André Sperelli avait en ce moment-là l'esprit gai et il poussa un de ces francs éclats de rire qui était la plus séduisante effusion de sa jeunesse.
Pourquoi riez-vous ? Lui demanda Routol au blême, hors de lui, en le fixant de dessous ses sourcils froncés.
Il me semble, répliqua Sperelli sans s'émouvoir, que vous me parlez sur un ton un peu vif, mon cher.
Eh bien, pensez de mon rire ce qu'il vous plaira.
Je pense qu'il est sot.
Sperelli bondit en avant, la cravache levée. Par un miracle, Caligaro put lui retenir le bras. D'autres paroles violentes éclatèrent. Don Marc-Antoine Spada survint et entendit l'altercation.
Assez, mes enfants, dit-il, vous savez tous les deux ce que vous aurez à faire demain. Pour l'instant, il s'agit de courir.
Les deux adversaires finirent de s'habiller en silence. Puis ils sortirent. Déjà, le bruit de la querelle s'était répandu dans l'enceinte et monté dans les tribunes. Et l'on attendait la course avec d'autant plus d'impatience. La comtesse de Lucoli, par une perfidie raffinée, annonça la chose à Donna Hippolyte Albonico. Celle-ci, sans laisser paraître le moindre trouble, répondit « C'est dommage, ils paraissaient bons amis !» La nouvelle volait sur les jolies bouches féminines en se transformant. La foule s'agitait autour des bookmakers. Maleko, le cheval du comte d'Ughenta, et Brummel, le cheval du marquis Routolo, étaient favoris. Venaient ensuite Satiris au duc de Beffy et Carbonille au comte Caligaro. Cependant, les fins connaisseurs avaient peu de confiance dans les deux premiers, convaincus que l'excitation nerveuse de leur cavalier serait inévitablement nuisible à la course. Mais André Sperelli était calme, presque joyeux. Le sentiment de la supériorité qu'il avait sur son adversaire lui donnait de l'assurance. D'ailleurs, son goût chevaleresque pour les aventures périlleuses, hérité d'un père byronien, lui faisait voir la situation sous un jour glorieux. Et la générosité native de son sang juvénile s'éveillait en face du danger. Tout d'un coup, Donna Hippolyte Albonico s'était dressée à la cime de son âme, plus désirable et plus belle. Le cœur palpitant, il vint au-devant de son cheval comme au-devant d'un ami qui lui aurait apporté la nouvelle attendue d'un bonheur. Il lui caressa doucement les naseaux. Et l'œil de l'animal, cet œil où la noblesse de la race allumait une flamme inextinguible, l'enivra comme un magnétique regard de femme. « C'est une grande journée, Maleko, » murmura-t-il en le flattant. « Il faut vaincre !» Son entraîneur, un petit homme roux qui fixait au passage des regards aigus sur les autres chevaux tenus en main par les palefreniers, dit d'une voix rauque « No doubt !» Maleko était un bé magnifique provenant des écuries du baron de Stickler. Il unissait à l'élégance et lancé des formes une extraordinaire puissance de rein. Son poil luisant et fin, sous lequel apparaissaient, au poitrail et au flanc, les réseaux des veines, semblait exhaler du feu, tant était grande l'ardeur de sa vitalité. Très bon sauteur, il avait souvent porté son maître dans les chasses, par-dessus tous les obstacles de la campagne romaine, sur n'importe quel terrain, sans se dérober jamais, ni devant une triple barrière, ni devant un mur, toujours à la queue des chiens, intrépidement. Un hop de son cavalier l'excitait plus qu'un coup d'éperon et une caresse le faisait frémir. Avant de monter à cheval, André examina soigneusement la bride et les étrivières, vérifia chaque boucle et chaque sangle. Puis il sauta en selle, souriant. L'entraîneur témoigna sa confiance par un geste expressif en regardant s'éloigner son maître. Auprès des tableaux de la côte, la foule des parieurs persistait. André sentit tous les yeux fixés sur sa personne. Il se tourna vers la tribune de droite pour voir Hippolyte Albonico. Mais dans cette multitude de femmes, il ne put rien distinguer. Il salua au passage Liliane Thin, qui connaissait si bien les galops de Maleko derrière les renards et derrière les chimères. La marquise d'Ateleta, informée de l'altercation, lui fit un signe de reproche. « Quelle est la côte de Maleko ?» demanda-t-il à Ludovic Barbarissi. Tandis qu'il regagnait le poteau du départ, il réfléchissait froidement à la méthode qu'il suivrait pour vaincre, et il considérait devant lui ses trois concurrents, calculait la force et la science de chacun. Paul Caligaro était un démon de malice, rompu comme un jockey à toutes les ruses du métier, mais si Carboni avait de la vitesse, elle avait peu de résistance. Le duc de Beffy, cavalier de haute école, qui avait gagné plus d'un match en Angleterre, montait un animal d'humeur difficile qui pouvait refuser l'obstacle. Jean Routolo montait au contraire une bête excellente et bien dressée. Mais s'il était vigoureux, il avait trop de fougue. Et puis, c'était la première fois qu'il prenait part à une course publique. De plus, il devait être dans un état de nervosité terrible, comme cela se voyait à de nombreux indices. André pensait en le regardant « Sans doute, ma victoire d'aujourd'hui influera sur mon duel de demain. Ici et là, il perdra la tête. Il faut que je reste calme sur les deux terrains. » Puis il pensa encore « Qu'est-ce qu'éprouvera dans l'âme Donna Hippolyte ?» Il lui sembla qu'il y avait autour de lui un silence inaccoutumé. Il mesura de l'œil la distance qui le séparait de la première haie. Il remarqua sur la piste un caillou luisant. Il s'aperçut que Routolo l'observait. Il eut un frémissement par tout le corps. La cloche donna le signal, mais Brummel avait pris son élan avant les autres et le départ fut jugé mauvais. La seconde fois, toujours par la faute de Brummel, il y eut encore un faux départ. Sperelli et le duc de Beffy échangèrent un sourire furtif. Le troisième départ fut bon. Immédiatement, Brummel se détacha du peloton, rasant la barrière. Les trois autres chevaux suivirent en ligne pendant un moment. Ils sautèrent bien la première haie, puis la seconde. Chacun des trois cavaliers jouait un jeu différent. Le duc de Beffy tâchait de se maintenir dans le peloton pour que, devant les obstacles, Satiris fût excité par l'exemple. Caligaro modérait la fougue de Carbonille afin d'en ménager les forces pour les derniers 500 mètres. Sperelli augmentait graduellement sa vitesse avec l'intention de rattraper son ennemi à proximité de l'obstacle le plus difficile. En effet, Maleko prit bientôt l'avance sur ses deux compagnons et se mit à serrer Brummel de très près. Routolo entendit derrière lui ce galop pressant et il fut pris d'une telle anxiété que sa vue se brouilla. Tout se confondit à ses yeux comme s'il eût été sur le point de perdre connaissance. Il faisait un immense effort pour tenir ses éperons piqués au ventre de sa monture, saisi de terreur à la pensée que ses forces pourraient le trahir. Il avait dans les oreilles un bourdonnement confus, et parmi ce bourdonnement, il distinguait le cri bref et sec d'André Sperelli « Hop, hop !» Malek, au plus sensible à la voix qu'à toute autre excitation, dévorait l'espace intermédiaire. Il n'était plus qu'à 2 ou 3 longueurs de Brummel. Il allait le rejoindre et le dépasser. Hop ! Une haute barrière traversait la piste. Comme Routolo avait perdu toute conscience et ne conservait qu'un furieux instinct de rester collé à son cheval et de le pousser en avant n'importe comment, il ne la vit point. Brummel sauta. Mais, mal secondé par son cavalier, il se heurta les jambes de derrière et il retomba si mal de l'autre côté que son cavalier perdit les étriers sans toutefois quitter la selle. Il n'en continua pas moins de courir. Maintenant, André Sperelli menait le train. Jean Routolo, sans avoir repris les étriers, venait second, suivi de près par Caligaro. Le duc de Belfi, retardé par un refus de Satiris, venait dernier. Ils passèrent dans cet ordre sous les tribunes. Ils entendirent une clameur confuse qui se dissipa. Dans les tribunes, tous les esprits étaient en suspens. Quelques spectateurs signalaient à haute voix les péripéties de la course. À chaque changement dans l'ordre des chevaux, de nombreuses exclamations s'élevaient au milieu d'un long murmure. Et les dames en avaient le frisson. Donna Hippolyte Albonico, montée droite sur une banquette, appuyée aux épaules de son mari debout devant elle, regardait sans la moindre émotion apparente, avec un merveilleux empire sur elle-même. Cependant, ses lèvres trop serrées et le plissement presque imperceptible de son front auraient pu révéler l'effort à un observateur. À un certain moment, elle retira ses mains de dessus les épaules de son mari. Elle craignait de se trahir par quelque mouvement involontaire. « Sperelli est tombé !» annonça tout haut la comtesse de Luccoli. En sautant, Malek avait posé le pied à faux dans l'herbe humide et fléchi sur les genoux. Mais il s'était immédiatement relevé. André lui avait glissé sur le cou sans accident et, avec une promptitude foudroyante, s'était remis en selle pendant que Routolo et Caligaro le rejoignaient. Brummel, tout meurtri qu'il était aux membres postérieurs, faisait des prodiges et montrait sa générosité de pur sang. Carboni a déployé enfin toute sa vitesse, conduite par son cavalier avec un art admirable. Il y avait encore 800 mètres environ avant le poteau d'arrivée. Sperelli vit que la victoire allait lui échapper, et pour la ressaisir, il recueillit tous ses esprits. Dressé sur les étriers, courbé sur la crinière, il jetait d'instant en instant un cri bref, sec, perçant, qui avait tant de pouvoir sur le noble animal. Tandis que Brummel et Carbonille, fatigués par la lourdeur du terrain, perdaient de leur vigueur, Malek, augmenté la véhémence de son élan, était sur le point de reconquérir sa place et fleurait déjà la victoire du feu de ses naseaux. Le dernier obstacle franchi, il dépassait Brummel, atteignait de la tête l'épaule de Carbonille. À 100 mètres environ du but, il rasait la barrière, filait, et laissait la jument noire de Caligaro à 10 longueurs en arrière. La cloche sonna. Un applaudissement retentit dans toutes les tribunes comme une sourde crépitation de grêle. Une clameur se propagea dans la foule sur la pelouse inondée de soleil. En rentrant au posage, André pensait « Aujourd'hui, la fortune est pour moi. Sera-t-elle encore pour moi demain ?» Et sentant venir à lui le vent du triomphe, il eut contre l'obscur péril du lendemain un soulèvement de colère. Ce péril, c'était tout de suite qu'il aurait voulu l'affronter, le jour même, sur l'heure, sans aucun délai, pour jouir d'une double victoire et mordre ensuite aux fruits que lui offrirait la main d'Hippolyte. Tout son être s'enflammait d'un orgueil sauvage à la pensée de posséder par droit de conquête violente cette femme superbe. Son imagination lui représentait un bonheur nouveau pour lui, comme une volupté d'autre temps, alors que les chevaliers, dénouant les cheveux de leurs dames avec des mains homicides et caressantes, y plongeaient leur front encore mouillé par la fatigue du combat et leur bouche encore amère des injures proférées. Il était envahi de cette ivresse inexplicable que donne à certains hommes intellectuels l'exercice de leur force physique, l'expérience de leur courage et la révélation de leur brutalité. Ce qui subsiste de la férocité originelle au fond de notre être remonte parfois à la surface avec une véhémence étrange, et même sous la mesquine élégance de l'habit moderne, notre cœur se gonfle parfois de je ne sais quelle fureur sanguinaire et rêve de carnage. André Spérelli aspirait l'exhalaison chaude et âcre de son cheval, et de tous les parfums délicats préférés par lui jusqu'alors, nul n'avait jamais donné à ses sens un plaisir plus aigu. À peine eut-il quitté la selle, il fut entouré d'amis et d'amies qui le félicitaient. Maléco essoufflé, tout fumant et écumant, s'ébrouait en allongeant le cou et en secouant la bride. Ses flancs s'abaissaient et se soulevaient par un mouvement continu, si fort qu'il semblait éclater. Ses muscles tremblaient sous la peau comme la corde d'un arc après la détente. Ses yeux dilatés et injectés de sang avaient la cruauté des yeux de fauve. Son poil tigré maintenant de larges taches plus sombres s'ouvrait par endroits en épi sous les ruisseaux de sueur. L'incessante vibration de tout son corps faisait pitié et attendrissait comme la souffrance d'une créature humaine. « Pour fellow !» murmura Liliane Sid. André lui examina les genoux pour voir s'il s'était blessé dans sa chute. Les genoux étaient intacts. Alors, flattant lentement le cou de l'animal, il lui dit avec un indéfinissable accent de douceur « Va, Maléco, va !» Et il le suivit des yeux pendant qu'il s'éloignait. Puis, lorsqu'il eut changé de costume, il se mit en quête de Ludovic Barbarise et du baron de Santa Margherita. Tous deux acceptèrent la mission de l'assister dans son affaire avec le marquis Rutolo. Il les pria de hâter les choses. « Réglez tout d'ici à ce soir. Demain, à 1 heure de l'après-midi, il faut que je sois libre. Mais vous me laisserez dormir au moins jusqu'à 9 heures. Je dînerai chez la princesse de Ferentino. Puis je passerai au palais Giustiniani. Puis j'irai au cercle, mais tard. Vous savez où me trouver. Merci, mes amis, et à bientôt. » Il monta dans la tribune, mais il évita de s'approcher immédiatement de Donna Hippolyta. Il souriait de se sentir enveloppé de regards féminins. Beaucoup de belles mains se tendaient vers lui. Beaucoup de belles voix l'appelaient André familièrement. Quelques-unes même y mettaient une certaine affectation. Les femmes qui avaient parié pour son cheval lui disaient le chiffre de leur gain. 10 louis, 20 louis. D'autres lui demandèrent avec curiosité « Vous vous battez ?» Il lui semblait avoir atteint en un seul jour le sommet de la gloire mondaine. Il était sorti vainqueur d'une course héroïque, il avait conquis une maîtresse nouvelle, magnifique et sereine comme une Dogarès, il avait provoqué un homme en duel à mort, et voici qu'il passait tranquille et courtois, ni plus ni moins que d'habitude, parmi les sourires de ces femmes dont il connaissait les grâces les plus secrètes. Ne voyait-il pas sur le flanc gauche d'Isotta Celesi, à travers toute cette claire fraîcheur d'étoffe printanière, le cygne blond, pareil à une petite pièce d'or, et à la poitrine incomparable de Julie Mocetto, polie comme une double coupe d'ivoire, pure comme un torse antique? N'entendait-il pas dans la voix sonore de Barbarella Vitti une autre voix indéfinissable qui répétait sans cesse une parole enivrante? Et dans le rire ingénu d'Aurore Seymour, un autre son indéfinissable, rauque et guttural, qui rappelait un peu le ronronnement des chats près du foyer ou le roucoulement des tourterelles dans le bocage? Ne savait-il pas les dépravations de la comtesse de Luccoli, qui s'inspirait des livres galants et des pierres gravées, et les invincibles pudeurs de Françoise Dadi, qui, dans les pâmoisons suprêmes, pareille à une agonisante, invoquait le nom de Dieu? Elles étaient là, presque toutes les femmes qu'il avait trompées ou qu'il avait trompées, et elles lui souriaient. « Voici le héros !» dit le mari d'Hippolyte en lui tendant la main et en pressant la sienne d'une vigoureuse étreinte avec une insolite amabilité. « Oui, un vrai héros !» ajouta Donna Hippolyte sur le ton insignifiant d'un compliment obligé en affectant de ne pas connaître le drame. Sperelli s'inclina et passa outre. Il éprouvait je ne sais quel embarras devant cette étrange affabilité du mari. Il eut l'âme traversée du soupçon que ce mari lui était reconnaissant d'avoir cherché querelle à l'amant de sa femme, et la lâcheté de cet homme le fit sourire. Lorsqu'il se retourna, les regards d'Hippolyte se rencontrèrent, se mêlèrent avec les siens. Au retour, monté sur le mail coach du prince de Ferentino, il vit Rutolo s'enfuir vers Rome dans une petite voiture à deux roues, au trot serré d'un grand cheval rouan qu'il conduisait, penché en avant, la tête basse et le cigare aux dents, sans faire attention aux agents de police qui lui disaient de prendre la file. Dans le fond, Rome se dessinait en noir sur une bande de lumière jaune soufre. Et par-dessus cette bande de lumière, au sommet de la basilique de Saint-Jean, les statues se dressaient dans un ciel violet, agrandi. Alors André se rendit bien compte de tout le mal qu'il faisait souffrir à cette âme.